Présence à Luchon, 94 FM.
Bonjour à toutes et à tous, une midi passée d'une petite minute, soyez les bienvenus. On va finir cette matinée ensemble pour ce Présence Midi, c'est toujours un plaisir de se retrouver. Alors le mercredi, au sommaire de ce magazine, dans quelques instants, nous serons avec Violaine Rico-Dumas qui viendra nous présenter des nouvelles du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Et puis Évasion et Nature seront au programme. Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers, nous parlera d'un livre qui est sorti sur des randonnées faciles dans le département du Gers, idéal pour les amoureux de balades accessibles et qui mêle bien sûr la culture et plein de belles choses et prendre plein les yeux car ce département du Gers est absolument magnifique. Et puis mercredi, c'est la littérature qui est au rendez-vous dans Un jour, un livre, un auteur avec Philippe Nouni et Diego Arabal. Alors vous le savez, les livres policiers, les trailers, les romans, ce sont les livres qui sont les plus vendus. Et bien aujourd'hui, c'est Diego Arabal qui va nous présenter d'un livre qui de Christ Traveri qui est auteur, qui s'appelle Halloween Rouge à Oléron, voilà, très belle l'île d'Oléron, donc on ira faire un petit tour pour se rafraîchir du côté de là-bas. Allez, tout de suite, on continue bien sûr avec l'actualité. L'actualité, il en est question avec l'école de journalisme de Toulouse.
Bonjour à tous, dans l'actualité ce matin, 70% c'est ce que peuvent perdre les commerçants situés à proximité des travaux de la ligne C du métro toulousain. L'agence Tisséo a promis d'indemniser les victimes, mais cet engagement pourrait être retardé suite à une décision juridique prise par le tribunal administratif. La prochaine commission est fixée au mois de juin. Qui dit pont dit circulation, le trafic routier risque d'être fortement perturbé d'après Vinci Autoroute. Cela inclut l'A61 direction Narbonne de 10h à 14h et vers 19h le dimanche soir. L'autoroute A69 sera globalement très empruntée de 10h à 15h le mercredi et le jeudi, mais également le soir vers 20h. Vinci n'a cependant pas mentionné l'A62. De vendredi à dimanche, la commune de Saint-Jory verra son ciel occupé. D'après des informations du Média Actu Toulouse, la société Fly4U Hélicoptère en est responsable. Si la météo le permet, la compagnie proposera des vols d'hélicoptères aux personnes intéressées. Ces survols pourraient occasionner des nuisances sonores ponctuelles. Astérix fait son grand retour aujourd'hui et Toulouse y est pour quelque chose. Le studio d'animation toulousain TAT a produit la nouvelle série Netflix qui débarque sur la plateforme dès ce matin. Avec Alain Chabat dans le rôle principal, 5 épisodes de 30 minutes raconteront un scénario inédit. La série sera disponible dès ce matin en simultané dans 190 pays et traduite en une quarantaine de langues. La fête du vin et des saveurs revient pour sa 12e édition dans le Lot du 2 au 4 mai. Vous pourrez retrouver plus de 37 producteurs réunis dans une ancienne ferme restaurée à Saint-Projet, tout près de Gourdon. L'abus d'alcool est cependant dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La chorale des jeunes Chantés pour servir vous invite à une soirée de louanges sur le thème « Fêtons la joie de Pâques ». Le samedi 3 mai à l'église d'Aussonne, de 20h30 à 22h, des chanteurs et musiciens vous proposeront de beaux chants de louanges, un temps d'intention de prière, ainsi qu'un moment de partage en petits groupes pour ceux qui le souhaitent.
Merci beaucoup Émile Boudjoma de l'école de journalisme de Toulouse et qui est partenaire avec Radio Présence pour ce flash. Et puis on retrouve bien sûr l'actualité plus complète cette fois-ci aux alentours de 12h30. Nous allons prendre la direction du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron pour retrouver notre correspondante Violaine Rico-Dumas qui va nous donner des nouvelles de ce beau diocèse.
Radio Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Jean Calment, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le responsable du service diocésain de relations avec le judaïsme. Donc, vous proposez tout au long de l'année pas mal de rencontres pour justement comprendre le monde juif, les liens avec le monde chrétien. Quel bilan pouvez-vous faire déjà de ce que vous avez proposé cette année?
Voilà, alors cette année, à la suite de trois années de dialogue avec le rabbin d'Arcachon, Éric Aziza, sur les actes des apôtres, il m'a paru intéressant de continuer ce petit travail de lecture, de réflexion. Et donc, avant les actes, il y a l'évangile de Luc. Et donc, j'ai entrepris la lecture de l'évangile de Luc avec quelques amis, dont une ou deux personnes juives. Et l'idée, c'était de non pas de partir de la tradition juive d'aujourd'hui, mais de ce que nous, chrétiens, connaissons un petit peu, quand même, le monde de l'Évangile, et d'y découvrir tout un tas d'éléments qui font partie de la tradition juive, de faire le lien entre les deux.
On fête justement cette année les 60 ans de Nostra Aetate, cette déclaration de l'Église sur les relations avec les religions non chrétiennes du Concile Vatican II. Est-ce que vous avez du coup pu en parler aussi lors de vos rencontres de Nostra Aetate?
Voilà, donc j'ai invité une personne qui enseignait au Bernardin, donc Daniel Guerrier, qui était venu à Pau du reste il y a une dizaine d'années. Et donc elle nous a expliqué toutes les démarches qui avaient dû être entreprises pour arriver à un texte sur ce qu'on appelait les religions non chrétiennes à l'époque, et en particulier le judaïsme. Et évidemment, c'est quelque chose qui n'a pas été facile, parce que cela allait à l'encontre de tout un tas de préjugés, des problèmes politiques rencontrés par les évêques du Moyen-Orient, du monde arabo-musulman. Mais donc le résultat, donc c'était une reconnaissance du judaïsme comme une réalité qui est intrinsèque au christianisme. Jésus était juif et nous ne devons pas l'oublier. Évidemment, cela a entraîné toute une relecture de nouveaux siècles d'histoire où les choses ne se sont pas toujours passées d'une manière idéale.
C'est vrai qu'on a souvent entendu dire il y a trois religions, islam, judaïsme, christianisme. Maintenant, on parle plutôt des juifs qui sont nos grands frères dans la foi. C'est une expression de Jean-Paul II, je crois. Et d'ailleurs, on ne parle pas de dialogue interreligieux avec le judaïsme, on parle de relations judéo-chrétiennes, c'est ça?
Voilà, donc c'est une réalité particulière, hein, ce qui n'exclut pas du tout, et personnellement je suis aussi engagé dans le dialogue avec le monde musulman. J'ai quelques amis musulmans avec qui je travaille sur le Coran, et les seules demandes qu'ils me font, c'est de savoir ce qu'en pense le monde juif, et Nous redécouvrons des pages du Coran qui sont extrêmement favorables au monde juif. Donc la guerre n'est peut-être pas présente dans l'endroit qu'on le pense, mais je pense que le travail qui est fait avec le monde juif aujourd'hui fait que je fais partie de l'association des chrétiens de France pour l'étude de la Bible, et nous pouvons très bien étudier un texte de la tradition juive comme un texte du Nouveau Testament. Il y a dorénavant des portes qui sont pas entrouvertes, qui sont tout à fait ouvertes.
C'est ce que vous proposez
c'est
d'ailleurs.
C'est passionnant.
C'est ce que vous proposez dans vos webinaires, donc des conférences qu'on peut regarder sur via le web, où on étudie les textes à la lumière de la religion juive ou de la religion chrétienne. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement, Jean Calment? Est-ce que ça a modifié votre perception? Est-ce que ça vous a fait aussi grandir dans votre foi chrétienne?
Il se trouve qu'étant enfant, j'étais pas loin du quartier du Marais à Paris, et le curé de Notre-Dame des Blancs-Manteaux était un frère de Sion, et je l'avais rencontré. Il m'avait expliqué qu'il avait été nommé dans cette paroisse parce que précisément il était spécialiste en relations avec le judaïsme, et puis il avait ajouté qu'il n'avait strictement aucune relation avec le monde juif qui se trouvait à quelques pas de son église. Et évidemment, quand on a 15 ans, qu'on étudie des textes du Nouveau Testament où il est question de juifs à chaque page, on se demande quelle est la raison de ce blocage. Et quelques années après tout de même, mais il est aujourd'hui possible d'étudier des textes du Nouveau Testament sans que le monde juif non seulement se soit choqué, mais avec des amis juifs qui sont intéressés par cette démarche. Et au niveau universitaire, on arrive à vraiment une relation extrêmement riche, extrêmement féconde. Et évidemment, ça donne, je dirais, ça élargit la foi du chrétien que je suis. Je suis pas simplement enfermé dans ma tradition, mais comme nous y invite le pape du reste avec beaucoup d'assistance, je suis dans une église du dialogue et de la rencontre.
Donc, ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas opposer les deux, qu'au contraire, on s'enrichit l'un l'autre. Est-ce que le fait que ça vous enrichit dans votre foi, c'est parce que vous voyez que vous n'êtes pas d'accord avec ce que peut dire la religion juive, ou est-ce que, au contraire, c'est parce qu'il vous apporte des choses?
C'est-à-dire qu'il y a forcément une tension, mais cette tension, elle existe dans toute tradition. Je n'ai pas nécessairement la même sensibilité que telle personne de tel courant de l'Église. Je pense qu'il y a un principe qui est relativement simple, c'est que l'Église s'est construite sur la notion d'universalité. Il y a des chrétiens dans tous les continents, dans presque tous les pays, tandis que le monde juif, lui, s'est construit sur une communauté relativement limitée. Aujourd'hui, cette communauté ouvre ses portes, aussi bien les responsables de la synagogue de Bayonne que de la communauté juive de Pau, sont prêts à accueillir des non-juifs à leurs offices, à faire visiter des monuments. Mais je dirais que la dynamique est différente et les Juifs comprennent très bien qu'on ne peut pas demander à 1 milliard de personnes de suivre des règles assez précises, assez détaillées. Et de plus en plus de chrétiens comprennent que les rites juifs sont pas simplement des archaïsmes, mais qu'ils ont toute une richesse symbolique. Et déjà le fait de les étudier, de sympathiser, de s'interroger, eh bien c'est déjà beaucoup.
Donc, beaucoup de choses à apprendre, en tout cas, du monde juif. Merci beaucoup, Jean Calment. Donc, je rappelle que vous êtes responsable du service diocésain de relations avec le judaïsme. Et puis, donc, si on veut en apprendre plus, on peut suivre un de vos webinaires proposés à peu près une fois par mois. Donc, on peut aller voir sur le site du diocèse, www.diocèse64.org. Ils sont annoncés régulièrement dans l'agenda. Merci beaucoup.
Merci à vous aussi, Violaine Rico-Dumas, pour cet entretien qui nous donne des nouvelles du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Alors, si vous aimez le Gers, restez avec nous, puisqu'on va vous proposer des randonnées, mais alors des randonnées faciles, pas plus de 6 km, avec un dénivelé pratiquement nul, donc, et des paysages à couper le souffle. Donc, voilà l'entretien que va bientôt avoir Pauline Cazier dans le reportage qu'elle nous propose chaque semaine pour le département du Gers. Restez avec nous. En attendant, on écoute les Frangines.
Présence à Bourdeuil, 94.
Dans leur prison dorée, des géants de ce monde construisent en papier des chimères et des bombes. Dire que petit enfant, on rêvait tout en grand. Faut croire qu'en grandissant, on s'enferme en dedans. Qu'est-ce que moi, je fais dans tout ça? Est-ce que j'écoute la voix qui parle au fond de moi? Moi, je veux devenir, devenir, devenir quelqu'un. Pouvoir me souvenir, souvenir, souvenir la fin. Combien j'aurais cherché mon chemin. Pour enfin devenir, devenir, devenir. Quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Faut réussir sa vie, briller, se faire une place. Ce quel qu'en soit le prix, y a pas de règle, hélas. Mais qu'a-t-on réussi quand on tait notre audace et qu'on se sent petit dans nos prisons de glace? Qu'est-ce que moi je fais dans tout ça? Qui parle au fond de moi. Moi je veux devenir, devenir, devenir quelqu'un. Pouvoir me souvenir, souvenir, souvenir à la fin. Combien j'aurais cherché mon chemin. Pour enfin devenir, devenir, devenir quelqu'un. Quelqu'un de bien. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Quelqu'un de bien.
cerveau qui crève. Les écrans de fumée ont enfermé mes rêves. Dire que petit enfant voyait tout en grand. Faut croire qu'en grandissant on s'enferme en dedans. Moi je veux devenir, devenir, devenir quelqu'un. Pouvoir me souvenir, souvenir, souvenir à la fin. Qu'au mieux j'aurais cherché mon chemin. Pour enfin devenir, devenir, devenir quelqu'un. Quelqu'un de bien.
À Cajarc 97.7.
Pour tous ceux qui aiment la randonnée avec des circuits, ne dépensant pas les 6 km avec de petits dénivelés, voici pour eux une proposition de 25 circuits à travers tout le Gers. C'est Père Massia, grand marcheur dans l'âme, qui a choisi ces balades destinées à toute la famille. Des itinéraires qui font la part belle à l'histoire, des voies antiques, des alentours de Saint-Christo aux rues médiévales des Hauts, en passant par les fortifications de l'Arrêt-Singles, rencontre avec l'auteur qui nous explique comment est né ce livre. Il est au micro de Pauline Cazier.
Je suis montagnard avant tout, c'est-à-dire que je suis accompagnateur en montagne, donc ça c'est mon métier professionnel, je suis accompagnateur en montagne, j'amène des gens en montagne et je marche, avant d'être accompagnateur, c'est-à-dire que j'ai dû être accompagnateur vers 30 ans, donc je marche depuis l'âge de 15 ans à peu près, donc ça fait, je sais pas, 40-50 ans que je fais de la randonnée, donc de la haute montagne, au traversée des Pyrénées, et là sur des randonnées plus familiales, plus on va dire dans le Piémont pyrénéen. Le Gers, c'est le Piémont pyrénéen.
En tant qu'accompagnateur, est-ce que vous constatez depuis plusieurs années un changement dans les habitudes des gens? Est-ce que la randonnée aujourd'hui est différente de celle d'il y a 20-30 ans?
Mais il y a eu, on en parlait ce matin, j'étais en visio ce matin avec l'agence des Pyrénées, on parlait qu'il y a eu une modification des pratiques à partir du Covid. On a tous senti un retour à la nature, avec beaucoup, beaucoup de monde qui allait prendre l'air, et qui allait, surtout sur la montagne, sur la randonnée pédestre en Piémont, ça n'a pas dû trop changer, mais enfin, autour des grandes villes, il y a eu un mouvement de démocratisation et des gens qui sont allés un peu partout dans la campagne avec un besoin de prendre l'air, quoi. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de gens avec des modifications de comportement, voilà, des barrières en montagne, des barrières qui ne se referment pas, des gens qui vont dans les troupeaux, des chiens lâchés, et donc ça crée un peu de problèmes avec le territoire. Voilà, c'est ce qu'on a constaté.
Alors, aujourd'hui, on vous reçoit pour ce livre consacré donc aux randonnées, à 25 promenades pour tous. Alors, promenades pour tous, elles sont surtout destinées aux familles. Vous avez choisi 25 itinéraires du Gers, mais j'imagine qu'il y en a plus. Alors, première question sur ce livre, comment vous les avez choisis?
Mais ça a été très difficile, c'est-à-dire c'est toujours pareil, c'est un choix, et c'est frustrant parce que le Gers mérite presque le double, c'est-à-dire qu'il risquerait presque deux volumes. Quand on parcourt le territoire gersois, on se rend compte de la variété, de la quantité, de l'intérêt, et même moi je me dis, ah ben non, là j'aurais dû aller là. Et puis maintenant, même quand je reviens sur le territoire, je vois un nouveau château, je vois une nouvelle, et je me dis, ah non, ça me manque. Et donc ce bouquin a été fini, techniquement, il a été parcouru. Le printemps, il était dernier, il était avant. Donc techniquement, maintenant, je redécouvre encore des choses. On ne connaît pas parfaitement un territoire. Et je me dis, ah oui, j'aurais dû y aller là. Donc c'est une sélection, c'est un choix. C'est ce que moi, c'est ce que je pense qui est le plus beau, le plus... C'est les coins qui méritent d'être parcourus, mais en même temps, il y en a bien d'autres, quoi. Par exemple, autour de Condon, il y a plein de balades à faire. Autour de Florence, il y a plein de balades à faire. Autour de Lectoure, il y a plein de balades. Autour d'Auch, il y a plein de balades. Et donc, on en choisit quelques-unes. Voilà. Mais le pays est attachant.
Est-ce que vous dites dans votre introduction, surtout restez curieux, le choix des promenades présentées ici est loin d'être exhaustif. Bien des chemins de traverse, des sentiers en sous-bois vous restent à découvrir. C'est vraiment un libre arbitre, chacun fait selon son envie, selon sa forme.
Ce qui est intéressant dans ce type de bouquin, comme c'est un choix, quand on n'a pas le temps quand on n'habite pas le Gers par exemple, quand on n'habite pas à demeure dans le Gers, c'est un moyen de découvrir rapidement et de se donner des idées. Ça n'empêche pas d'aller à l'office du tourisme du coin où on est en vacances, par exemple si on est vacancier, et d'aller demander des renseignements, parce que souvent les offices de tourisme ont des randonnées autour des territoires, et il y en a d'autres qui ne seront pas proposés dans ce bouquin parce qu'on est obligé de faire un choix. Mais c'est une invitation à la découverte, une invitation à la curiosité, et ça permet de donner des idées comme ça, rapidement, pour aller dans un endroit, et qu'est-ce que je fais dans cet endroit-là, si j'ai envie de faire une balade d'une heure et demie, deux heures l'après-midi, et voilà, c'est la volonté de ce bouquin.
Dans l'introduction aussi, vous faites des recommandations, hein, une randonnée même de deux heures, on peut être confronté à des problèmes de météo, il faut être très prudent sur la manière de s'habiller, sur la manière dont on va aborder cette randonnée.
Oui, il y a toujours des précautions à prendre quand on part deux heures. Parce que par exemple, là, en ce moment, c'est très orageux, donc on peut être surpris par l'orage à n'importe quelle heure de la journée, on peut être mouillé et tout ça, mais il n'y a pas les dangers objectifs qu'il peut y avoir en montagne. C'est-à-dire, même si on se perd, on retombera toujours sur une route départementale qui va nous ramener à notre point de départ. Il y a des outils numériques. Dans les balades, vous avez un petit QR code que vous pouvez télécharger, qui va se télécharger sur votre téléphone et qui va vous aider à vous repérer sur le terrain. Donc oui, il faut être précautionneux, il faut faire attention aux chiens, c'est-à-dire on oublie tout le temps souvent que les chiens c'est accidentogène, et après il faut profiter, prendre la météo, consulter la météo, partir quand il fait beau, éviter les orages, voilà.
Donc dans chaque lieu, il y a des indications aussi historiques.
C'est ça. C'est-à-dire que les Sentiers d'Émilie, sont des bouquins, très modestement, c'est des bouquins très difficiles à faire, parce que le calibrage est très étroit, c'est des bouquins qui font très peu de pages, et donc il faut être le plus succinct possible et le plus précis possible. Et donc, je peux vous dire qu'à la relecture, on a beaucoup souffert, parce que ceux qui relisent, ils redemandent des précisions pour qu'on soit le plus précis possible, et sur la culture aussi, il faut qu'on soit innovant, que ça soit pas du Wikipédia copier-coller, que ça soit qu'on fasse un peu quelques recherches pour trouver. Voilà, donc ça demande aussi une curiosité, et l'aspect culturel est important. Voilà.
Alors, on trouve des balades dans des lieux très touristiques. On va parler de Fourcès, La Recingle, et puis on va trouver des choses qui sont peut-être moins connues. Agé, par exemple, Jubelloc.
Ouais. Jubelloc, c'est très intéressant. C'est un bras de la Dour. Donc, évidemment, c'est pas très loin de chez moi, puisque moi j'habite Madiran. Donc, c'est le coteau quand on descend vers le Gers. Et donc, c'est un bras de la Dour. Et Jubelloc, c'est juste en bordure de la Dour. Et c'est des bras morts de la Dour, on va dire comme ça, où il y a une réserve qui a été faite. Donc, c'est un paysage de sous-bois, de rivières. On peut observer des oiseaux, on peut observer une flore particulière. Il y a des poses d'observation. Si on a des jumelles, c'est des observations de surtout l'hiver, d'oiseaux qui viennent se poser, qui sont en migration. Voilà, Jubelloc. Et moi, vous me dites Fourcès, mais moi, Fourcès, je ne le connaissais pas. Et donc, pour moi, Fourcès, c'était une découverte. Quoi. Alors, parmi les plus beaux villages de France, mais quand même, c'est vraiment un super lieu. Quoi.
L'ouest, le nord, le sud, l'est du département, est-ce qu'il y a vraiment des différences de paysage?
Ah oui, entre le nord, Condon, Florence, Lectoure, j'ai même trouvé une balade sur un carse. Moi qui viens de la montagne, qui suis habitué au pic d'Annie, au carse d'Annie, je ne savais même pas qu'il y avait un carse, un endroit où l'eau traverse un paysage calcaire. Je ne savais même pas qu'il y avait un carse dans le Gers, donc je suis allé voir et j'ai fait une balade sur le carse. Et je trouve que géologiquement, c'est vachement intéressant. Et il y a vraiment des différences entre le nord, l'Armagnac, la boucle de la Dour, les endroits comme Castéra-Verduzan qui sont un peu différents, tout l'est. C'est Simor, Saint-Élix, c'est vraiment des endroits étonnants. Toujours une présence agricole très importante, c'est-à-dire c'est un paysage agricole rural. Le Gers, c'est très très rural. Voilà, c'est collines, c'est monts. Les Pyrénées, toujours en fond. C'est-à-dire quand il y a la neige là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce bouquin au printemps. Pour avoir des fleurs, de la verdure et les Pyrénées. Voilà.
Gers, par rapport à d'autres départements, vous allez régulièrement dans les Pyrénées-Atlantiques. Quelle différence au niveau paysage?
Là, je viens du Pays Basque. Là, j'ai traversé 5 jours le Pays Basque, là, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, le paysage, c'est complètement différent. Enfin, c'est pas complètement différent. La ruralité est présente. Dans le Pays Basque, c'est le pastoralisme et l'élevage. Dans le Gers, c'est aussi l'élevage, mais c'est pas le même type, parce que dans le Pays Basque, c'est plutôt de la transhumance, c'est des brebis. Ici, c'est plutôt des élevages des bovins, du maïs, des céréales. Et donc, les paysages sont un peu différents. C'est vallonné par rapport à la haute montagne. On va dire quoi? Le Gers, on va dire que c'est plutôt la douceur. C'est le paysage de douceur qui est moins abrupt, et un peu plus sec. Par rapport aux Pays-Bas, c'est un peu plus sec et un peu plus chaud.
Alors sur l'aspect technique, les randonnées ne dépassent pas 2h30. Les dénivelés...
C'est assez raisonnable, c'est dénivelé. En général, c'est pensé pour être fait avec des enfants de 6 ou 7 ans. C'est-à-dire que c'est, normalement, c'est envisageable avec des enfants. C'est pas des pièges absolument délirants, quoi. Il n'y a pas de dénivelé, c'est pas excessivement sportif. C'est plutôt de la balade agréable pour découvrir le territoire.
Alors, je rappelle une dernière fois, 25 promenades pour tous aux éditions Rando Édition. C'est une collection qui s'appelle Les Sentiers d'Émilie. Pierre Massia, merci à vous.
Merci à vous.
Voilà, à l'instant, c'était Pierre Massia, donc l'auteur de ce bel ouvrage, qui était au micro de notre correspondante dans le Gers, Pauline Cazier, qu'on remercie bien sûr très vivement pour cet entretien.
Grande fête au château, il y a bien longtemps, les belles et les beaux nobles y au noble sang. De tout le royaume en est venu dansant. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux, tourne les violons. Grande fête aux rameaux et Manon à 16 ans. Servant en ce château comme sa mère avant. Elle porte les plateaux lourds à ses mains d'enfant. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux, tourne les violons. Différent des hommes d'ici blond et grand. Le sourire éclatant d'un prince charmant. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux, tourne les violons. Redouble la fête et les rires et les danses. Manon ses merveilles en remplissant les panses. Le bruit des lumières, c'est lui qui s'avance. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux, tourne les violons. En prenant son verre auprès d'elle, il se penche. Lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Tu es bien jolie dans un divin sourire. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux, tourne les violons. Les années dures et grises à servir. Une vie de peine et si peu de plaisir. Mais ce trouble-là brûlant ses souvenirs. Tourne les vieux, tourne les vieux, tourne et s'en vont. Tourne les vieux, tourne les vieux. Elle y pense encore et encore et toujours. Les violons le décorent et ses mots de velours. Son parfum s'étend. Prenant son verre auprès d'elle, il se penche. Lui glisse à l'oreille en lui frôlant la hanche. Juste quatre mots, le trouble d'une vie. Juste quatre mots qu'aussitôt il oublie.
Vous avez sûrement reconnu la voix de Jean-Jacques Goldman avec ce titre « Tourne les violons », 12 heures passées de 30 minutes sur Présence. Merci de votre fidélité, bon appétit si vous êtes bien sûr à table. On va retrouver tout de suite le journal de la mi-journée en compagnie d'Émile Boudjema. De
Présence à Mirande, 104.2.
Et je disais donc de l'école de journalisme donc de Toulouse. Bonjour Émile.
Bonjour à tous. Dans l'actualité ce matin, 70%, c'est ce que peuvent perdre les commerçants situés à proximité des travaux de la ligne C du métro toulousain. L'agence Tisséo a promis d'indemniser les victimes, mais cet engagement pourrait être retardé. Une décision juridique prise par le tribunal administratif va repousser le versement de ces indemnités pour un tiers des 90 commerçants concernés. La date de la prochaine commission d'indemnisation est fixée au mois de juin, mais certains dossiers devront attendre jusqu'au mois de septembre. Qui dit pont dit circulation. Certains d'entre vous profiteront de ce premier week-end à rallonge. Peut-être dès ce soir, le trafic routier risque d'être fortement perturbé d'après Vinci Autoroutes. L'entreprise a communiqué les routes à éviter. On y retrouve l'A61 direction Narbonne de 10h à 14h et vers 19h le dimanche soir. L'autoroute A69 sera globalement très empruntée de 10h à 15h le mercredi et le jeudi, mais également le soir vers 20h. Vinci Autoroutes n'a cependant pas mentionné l'A62.
Un hélicoptère va survoler une commune proche de Toulouse pour une raison assez particulière, Émile.
Effectivement, Jonathan, de vendredi à dimanche, la commune de Saint-Jory verra son ciel occupé. D'après des informations du média Actu Toulouse, il s'agit d'un événement inédit pour la ville. C'est la société Fly For You Hélicoptère, spécialiste du baptême hélico, dans le cadre d'une manifestation privée. Si la météo le permet, la compagnie proposera des vols d'hélicoptères aux personnes intéressées. Attention tout de même, ces survols pourraient occasionner des nuisances sonores ponctuelles. Le MEDEF 31 lance sa plateforme philanthropie suite à une initiative prise en mars 2024. Elle est pensée comme un outil pratique et accessible en ligne, directement sur le site. Pierre-Olivier Nau, directeur du MEDEF 31, nous en dit plus sur le concept.
Le MEDEF Haute-Garonne a choisi il y a quelques mois effectivement de lancer une plateforme web sur le site web du MEDEF 31, medef31.fr, qui a pour but de parler aux entreprises de l'intelligence du mécénat, du sponsoring et de la philanthropie, de la méthode également, et surtout de proposer de connaître des projets qu'ils pourraient accompagner en argent, en dons humains, en temps, en locaux, en biens matériels, et donc permettre aux associations elles-mêmes de présenter leurs demandes, leurs besoins sur cette plateforme. C'est un lieu de rencontre, cette plateforme, toute plateforme finalement, un lieu de rencontre pour permettre aux projets et aux entreprises qui souhaitent donner de se connaître et de bâtir ensemble.
Les raisons de la création de cette plateforme sont diverses et variées, et l'une témoigne même d'une expérience personnelle du président.
Moi-même, en tant qu'administrateur d'association, il y a plus d'un an, j'ai cherché à lever des fonds auprès d'entreprises et j'ai franchement galéré pour le faire, pour des projets culturels, également associatifs étudiants. J'ai eu beaucoup de mal et ça m'a un peu surpris. Et d'autre part, parce qu'on est, chef d'entreprise, énormément sollicité. Et que ces sollicitations très nombreuses font qu'au bout d'un moment on est perdu et ça finit par avoir un effet un peu repoussoir en quelque sorte. Donc on ne souhaite pas du tout aller dans ce sens-là, au contraire on souhaite accompagner chacun et que finalement l'entreprise joue son rôle citoyen également à travers la philanthropie, le mécénat, le sponsoring.
Vous aurez l'occasion d'en savoir plus sur cette plateforme d'ici 10 minutes hein, dans le grand entretien d'Isabelle Duché à 7h40 en présence du co-président du MEDEF 31 en direct sur Radio Présence. Avis à tous les amateurs de vin de la région, la fête du vin et des saveurs revient pour sa 12e édition dans le Lot du 2 au 4 mai. Vous pourrez retrouver plus de 37 producteurs réunis dans une ancienne ferme restaurée à Saint-Projet tout près de Gourdon. Organisée par le Lions Club, un peu moins d'une quarantaine de vignerons et producteurs s'installeront venus de presque toutes les régions françaises. Ils partageront leur passion et feront des déguster leurs produits. La chorale des jeunes chantés pour servir vous invite à une soirée de louanges sur le thème « Fêtons la joie de Pâques » le samedi 3 mai à l'église d'Aussun. De 20h30 à 22h, des chanteurs et musiciens vous proposeront de beaux chants de louanges, un temps d'intention de prière ainsi qu'un moment de partage en petits groupes pour ceux qui le souhaitent.
Merci beaucoup Émile Boudjoma, on a pris bien note de ce rendez-vous. Un jour un livre, un auteur, aujourd'hui on va partir vers l'île d'Oléron et on va parler d'un polar. Voilà, c'est ce que aime bien Diego Arrabal et on retrouve tout de suite le duo Philippe Denis, Diego Arrabal, un jour un livre, un auteur.
Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni, Diego Arrabal, Philippe Subercase.
Un jour, un livre, un auteur. Mon cher Philippe Noni, eh bien, vous avez un invité aujourd'hui en plateau.
Voilà, bonjour Philippe Subercase, bonjour Diego Arrabal. C'est surtout Diego Arrabal qui va officier aujourd'hui. Hein.
Tout à fait, bonjour les deux
avec
Philippe,
son invité,
c'est un peu
donc,
notre
Diego, la parole
habitude.
Est à vous.
Merci, mais j'ai prise, tant pis. Hein. On m'a toujours appris que la parole ne se donne pas, elle se prend.
Elle se prend, tout à fait.
Voilà. Et donc, oui, c'est une émission que je vais animer aujourd'hui parce que, ben, devinez quoi, on va parler de polar. Et non. Pour parler de polar, on va parler de polar. Et pour parler de polar, je reçois Chris Raveri, un auteur de romans policiers que je n'avais pas encore eu le plaisir de recevoir sur cette antenne. Et donc c'est chose faite. Bonjour Chris.
Bonjour Diego, bonjour Philippe.
Voilà, et nous allons parler de son nouveau roman, tout chaud, sorti des presses, qui s'appelle Halloween Rouge à Oléron, qui est un roman qui met en scène des personnages qu'il a déjà, depuis un bon bout de temps, mis en scène. Donc on en reparlera tout à l'heure. Alors, comme d'habitude, Chris, je vais... réagir à la lecture de votre livre, et après ça, vous aurez le droit de réagir. Alors, généralement, comme c'est des auteurs que j'ai au téléphone, je leur dis qu'ils peuvent me taper. Mais comme aujourd'hui, vous êtes en studio, j'évite de le dire.
Il y a des œufs, Chris. Hein. Voilà. Il y a des œufs, vous, juste là, sous la table, et puis vous les lancez sur Diego Arabal, voilà. Si jamais...
Alors, Halloween Rouge à Oléron. Dernière soirée d'octobre, des groupes d'enfants sillonnent l'île d'Oléron en quête de bonbons. Mais des tueurs aussi. Alors que la capitaine Mallory Bernier, dite Malou, est interrogée par des gendarmes suite à la tentative d'assassinat dont elle vient d'être victime, plus loin, sur cette île, un couple de paisibles retraités est froidement abattu à leur domicile. Quel rapport ces meurtres ont-ils avec l'enquête que sur des braquages violents à Bayonne que mène opiniâtrement la capitaine? Et que vient faire dans cette affaire Marco Giacometti, fraîchement sorti de prison où il purgeait une peine de 10 ans pour un casse meurtrier? Ce sont les questions qui se posent à Imanol, Etchebeli, commissaire à la PJ de Bayonne et supérieur de Malou. Pour tenter d'y voir clair, il fait appel à Max Grabowski, son collègue de Bordeaux. Mais les uns et les autres sont bloqués par d'un côté la DGSI et la DGSE, de l'autre... ce qui obscurcit encore cette histoire. Chris Raveri reprend ici ses personnages habituels pour une enquête haletante et bien rythmée. Le récit se développe entre Bayonne, Bordeaux et l'île d'Oléron, en suivant flics et truands dans une course-poursuite accumulant les cadavres et les énigmes, un polar divertissant dont l'intrigue à tiroir tient le lecteur en haleine. Alors Chris, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes rapidement avant qu'on rentre dans votre roman ?
Alors, moi en fait je suis jurassien, je suis palois depuis une trentaine d'années, je suis venu pour travailler ici, j'ai commencé ici à la direction départementale d'équipement des Pyrénées-Atlantiques, et après je suis passé au conseil général qui est devenu après le conseil départemental. Donc, j'étais ingénieur et je suis retraité de la fonction publique territoriale.
D'accord. Et donc, pour meubler votre retraite, vous vous êtes mis à écrire?
Alors, c'est un peu le hasard. Hein. Je n'avais pas du tout prévu d'écrire. J'ai toujours été lecteur depuis mon plus jeune âge. Et il y avait déjà 2 ans que j'étais à la retraite. Et à un moment, j'ai eu une idée. Ça m'empêchait de dormir, il a fallu que je me lève, il a fallu que j'écrive. En 3 jours, j'avais écrit 100 pages de 2 à 4. Après, bon, ben, j'ai passé ça sur l'ordi, mais je savais pas ce que j'allais en faire. Et en un mois, j'avais ce qui est devenu la base de mon premier roman, qui était une romance. Alors, rien à voir avec l'émission d'aujourd'hui. Et finalement, ben, je l'ai sorti en auto-édition. Mm-hmm. Et ça m'a mis le pied à l'étrier. J'ai pris goût. J'ai trouvé des lecteurs. Ensuite, j'ai fait un deuxième roman, qui est un genre roman du terroir. Je dis genre parce qu'il n'a pas de rapport avec le terroir sur lequel je vis. Donc, c'est une histoire, on voyage pas mal, puisqu'on va même aux USA, au Mali, au Vietnam.
D'accord.
Et puis, je m'étais mis à lire ce genre de romans, ces romans régionaux, polars régionaux. Je me suis dit, ça va être marrant à écrire. Et je me suis lancé. Effectivement, j'ai pris beaucoup de plaisir, et puis les lecteurs aussi. Donc, j'ai continué, et j'en suis au 5e.
Très bien. Et pourquoi avoir choisi des personnages qui sont situés à Bayonne et à Bordeaux alors que vous êtes à Pau, donc vous auriez pu les placer sur Pau?
Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. En fait, j'avais pris comme parti pris de prendre la côte. D'accord. J'aime beaucoup, je suis souvent dans les Landes, j'aime beaucoup sur la côte landaise, j'aime beaucoup aussi le Pays Basque. J'aimais aussi le Béarn, évidemment. Mais je me suis dit, tiens, je vais situer une équipe de policiers à Bayonne. Puis j'en ai mis une à Bordeaux. Parce que je travaillais avec les enquêtes à double tiroir, deux enquêtes séparées qui se rejoignent à un moment. Puis je les fais travailler ensemble.
D'accord.
Alors je fonctionne de cette façon-là. Mais je ne m'interdis pas de venir à Pau dans un prochain roman.
Eh bien, on attend ça avec plaisir. Vos personnages sont quand même assez intéressants. Il y a une relation très proche entre les différents policiers, entre eux. Hein, et même s'ils sont dans des secteurs différents, il n'y a pas trop de concurrence. Il y a plutôt une complémentarité entre les deux commissaires, Imanol d'un côté, Grabowski de l'autre. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une concurrence, puisqu'ils sont tous les deux sur des zones PJ. On pourrait s'attendre à ce que on n'ait pas trop envie que l'un vienne marcher sur les plates-bandes de l'autre. Mais en revanche, non, ils sont bien, bien complémentaires. C'était un choix de votre part de ne pas les mettre en opposition ?
Oui, tout à fait. Je ne voulais pas partir sur une histoire de guerre des polices, ça ne m'intéressait vraiment pas. Et en plus, mes deux commissaires, qui sont commissaires au début, ils n'étaient même pas... sont des copains, des anciens joueurs de rugby, donc c'est la solidarité, même s'ils ne jouaient pas ensemble, puisqu'il y en a un, c'est Bordeaux, c'est l'Union Bordeaux-Bègles, et l'autre, c'est à l'Aviron Bayonnais. Mmh. Et mon commissaire bayonnais, je l'ai situé, qui a même joué à haut niveau, donc j'ai gardé la solidarité du rugby.
D'accord. Alors, on va parler un peu de cette histoire. Donc là, on a une enquête qui démarre, qui s'arrête parce que la personne qui suit l'enquête, la capitaine Mallory, est hyper chargée, elle est très très prise, elle bosse énormément, elle fait des filatures, etc. Et donc, son supérieur, le commissaire Etcheberry, lui propose de prendre quelques jours de vacances. Et elle en profite pour aller donc sur l'île d'Oléron, coupée de tout, tranquille, sur une île, là dans un endroit où elle va pouvoir décompresser. Et voilà que effectivement c'est le soir d'Halloween, on sonne à sa porte. Alors effectivement le soir d'Halloween, quand on sonne à la porte, c'est des enfants qui viennent réclamer des bonbons. Et là, non, c'est pas des enfants qui viennent réclamer des bonbons, c'est des gens qui viennent distribuer des bastos. Et donc, elle échappe de peu à une tentative d'assassinat. Et elle va quand même réussir à blesser un des agresseurs ou une des agresseuses. On ne va pas dévoiler si c'est des hommes ou des femmes, puisqu'ils sont masqués. Et à partir de là, va se dérouler une course-poursuite. Mais c'est assez intéressant. Comme ça, je vais en vacances, personne ne sait où je vais, et quand même, des tueurs me trouvent.
Alors ça, c'est un parti pris que j'ai pris, puisque mon personnage, la capitaine Mallory Beignet, dite Malou, c'est un personnage fort. Au fil des livres, elle a pris de plus en plus d'importance. D'ailleurs, dans le premier livre, elle est à la crime de Bordeaux. Mm-hmm. Elle travaille sous les ordres de Max Grabowski. Ensuite, elle est passée, je l'ai mutée.
Vous l'avez muté d'office.
Je l'ai muté à Bayonne. Non, pas d'office. Elle a fait une demande à bonnet du forme. Je l'ai muté à Bayonne parce qu'elle a eu l'occasion d'être détachée sur Bayonne pour travailler avec Emmanuel Etcheberry. Et c'était bien plus côté basque. Et j'avais déjà, dans un deuxième livre, j'avais déjà mis une agression sur elle, mais dans le cadre d'une enquête à Bayonne, où elle s'en était sortie vraiment de justesse. Et là, je l'ai repris comme personnage, puisque c'est une femme forte. Hein. D'ailleurs, c'est un personnage qui ne supporte pas toutes ces agressions qu'il peut y avoir contre les femmes, puisque elle respecte la justice, mais elle sera à deux doigts de la faire la justice elle-même. Une justicière quand une femme est, il y a un féminicide, puisque dans tous mes livres, il y en a. Hein. Mm-hmm. Ouais. Donc c'est pour ça que je suis parti de cette façon-là. Et c'est un de mes personnages centraux, absolument.
Oui, bien qu'elle ne soit pas, je dirais, hiérarchiquement le personnage central du point de vue hiérarchique.
Non, du point de vue hiérarchique, voilà. Non.
Mais c'est quand même le personnage central du point de vue de l'intrigue que vous menez. Et c'est vrai qu'elle va être quand même mise à rude épreuve dans cette histoire. Ceci dit, son patron direct va être aussi sacrément déstabilisé par une belle femme qui ne cesse de lui donner des conseils pour qu'il lâche l'enquête.
Oui, tout à fait. Ben, pourtant, Emmanuel Echeverri, hein, c'est une armoire à glace, 2 mètres de haut, un quintal. Bon, c'est une force de la nature. Mais d'un autre côté, bon, il aime beaucoup les femmes, évidemment. Et devant les femmes, ben, des fois, ils font et il fait pas. Mais il faut dire que celle que je lui ai mis en face, là, qui est un personnage. Qui est un personnage assez. Qui devient central, même si elle apparaît pas tout à fait tout de suite dans le livre, hein, je vais pas trop
dévoiler. Faut pas divulguer
voilà,
non plus.
Je vais pas dévoiler, mais
c'est un personnage qui au départ est relativement secondaire puisque c'est un personnage qui apparaît, qui donne quelques conseils au commissaire Echeverri et qui ensuite disparaît, mais qui en même temps va prendre de plus en plus de place dans le récit et qui va prendre de la place de façon sacrément violente.
Oui, puisque j'ai créé un personnage qui échappe un peu à... C'est un personnage qui était créé pour... Alors, je ne veux pas trop dévoiler, mais en fait, on devient dans le nos limites un peu. Hein, elle a plus d'âme, en fait, cette femme. Elle est capable de tuer... Sans
le moindre remords.
Sans le moindre remords,
mais. Et de façon quand même un peu perverse,
oui,
parfois.
Oui, parfait. Mais, en fait, sur ordre, quand même, à la base, hein, ce n'est pas une. Elle tue pas pour tuer, elle tue pour une cause.
Oui. Elle est totalement investie dans cette cause. Elle serait un peu le pendant négatif de Malou, non?
Oui, puisque Malou, c'est l'inverse. Elle peut tuer, mais s'il le faut vraiment, pour défendre sa vie ou pour défendre quelqu'un.
Oui, oui. Là, au début du roman, ben, elle récupère son arme de service et elle tire sur un des deux agresseurs qui ont pénétré chez elle. Et elle n'a pas d'état d'âme sur le fait que elle l'a peut-être blessé ou peut-être tué, mais elle n'a pas l'état d'âme par rapport à ça.
Non, parce qu'en fait, elle n'a pas le choix.
Oui.
C'est elle.
C'est
ou
elle
l'autre.
Ou l'autre. Ça, c'est clair. C'est clair. Alors, le fond de l'histoire est quand même assez complexe puisque on va se retrouver avec des affaires qui se déroulent à Oléron. On va se retrouver avec des affaires qui se déroulent à Bordeaux. On a aussi des choses qui se passent à La Rochelle et puis qui se passent à Bayonne. Quelle est la façon de tricoter tout ça?
Bon, en fait, moi, j'ai une méthode d'écriture. C'est vraiment ma propre façon d'écrire. Je ne travaille pas avec un scénario tout ficelé. Je ne peux pas travailler de cette façon-là. Je pars d'une idée et je démarre. Ça va m'emmener, ça peut m'emmener 40, 50, 60 pages, plusieurs chapitres. Mais quand je démarre mon histoire, je ne connais jamais la fin. Et la fin, je la crée, à un moment, évidemment, en cours de route, mais des fois assez loin. Et je recentre. C'est ma méthode de travail. Et je crée mes personnages. Alors, j'ai mes personnages habituels. Et je crée plus des récurrents, des fois, que je peux réutiliser. Comme, par exemple, j'ai une médecin légiste. Je suis à Bayonne, par exemple. J'ai une médecin légiste. Ben, mettons, si j'en ai besoin, je vais la reprendre. Je prends toujours la même pour l'instant. Bon, tant qu'elle est à Bayonne, je la prends. Je travaille de cette façon-là. Et a priori, ben, ma foi, le principal, c'est le lecteur après qui va juger, voir si on a réussi à son coup ou pas. Pour l'instant, j'ai l'impression que je suis retombé sur mes pieds. On va voir si dans celui-là, ce sera la même chose.
Eh bien, on va le voir, oui. Philippe.
Je vais vous lire un petit extrait du roman d'Igor.
Mais avec grand plaisir.
Écrit, c'est également. Donc, c'est le début du chapitre 2. Halloween, Saint-Pierre d'Oléron, 31 octobre 2023. Après une journée fraîche débutée sous un temps pluvieux et venteux, la nuit venait de tomber sur Saint-Pierre d'Oléron. La sonnette de la porte d'entrée des Dubonnet retentit, stridente. Immédiatement, le matou courageux sauta du canapé et se réfugia dessous. « Tu attends quelqu'un ?» demanda l'épouse à son mari, affalé dans son fauteuil en cuir pleine feur devant le téléviseur allumé sur une émission de karaoké.
sur l'écran, des chanteurs inconnus, profiter de leur heure de gloire, coachés par un animateur au sourire permanent, parrainé par une marque de dentifrice. J'y vais, maugréa le retraité dérangé. Il déposa son verre de bourbon hors d'âge sur un guéridon recouvert d'un aperon immaculé en dentelle de Calais. Dès l'ouverture de la porte d'entrée, un piaillement de voix enfantine l'assaillit. « Des bonbons ou un sort ?» Devant lui, 5 enfants le menaçaient de leur déguisement d'Halloween. La plus petite, 4 ans environ, voilée de la tête aux pieds en fée maléfique, tenait une boîte anthracite décorée d'une tête de mort. L'unique garçon de la bande, âgé de 6 ans, arborait une tenue rouge de diable à longue queue et brandissait un trident noir aux dents acérées sanguinolentes. Engoncé dans un habit vert pomme en forme de citrouille ridicule, le troisième, une fillette malingre du même âge, semblait un peu perdue. Les 2 aînés, 8 et 9 ans, en collant un juste au corps, masque sinistre de carnaval morbide sur le nez, affichaient un air terrible. « Sophie, as-tu des bonbons ?» Mince, j'ai oublié d'en acheter. 5 mains à l'index agressif se tendirent aussitôt vers le couple sans cœur.
Eh bien, c'était bien comme entrée en matière et ça donne envie de le lire. Est-ce qu'on peut dire 2 mots de la couverture ? Qui c'est qui vous a fait votre couverture ?
Alors, je travaille avec une graphiste landaise.
Que nous recevrons la semaine prochaine.
Très bien, qui s'appelle Nathalie Glevarek. Bon, donc, qui est maintenant aussi auteur de polar.
C'est pour ça qu'on la reçoit.
Pardon. Donc je suis à mon 5e polar avec elle. Et vraiment, elle travaille très bien et on arrive à travailler très rapidement pour sortir la couverture, puisque je lui envoie le manuscrit, elle le lit, elle me fait des propositions et en général, en 10 à 15 jours, c'est terminé.
Et elle vous fait beaucoup de propositions, 2, 3?
Non, ça va très vite. Je vois comme sur celui-là, c'était peut-être le plus rapide. En une semaine, elle était conçue. La première proposition de base avec la double identité, parce que je tenais à ce que la double identité apparaisse. Il y avait l'île d'Oléron qui vient pour la première fois, mais je voulais l'identité basque. D'ailleurs, dans tous mes livres...
Dans les couvertures de tous vos livres, voilà, on retrouve le drapeau basque.
Puisque, comme je retravaille avec ces équipes d'enquêteurs, en particulier la PJ de Bayonne, qui se retrouvait un peu la plus importante dans les affaires maintenant... Donc je voulais que l'identité apparaisse. Et puis ce roman, il a vraiment une double identité. Puisque ça m'arrive, ça m'était déjà arrivé d'aller en Corse dans un précédent. Je peux, effectivement, j'ai pas fait le Béarn encore, mais j'hésite pas à aller ailleurs. Donc voilà, je suis très satisfait de travailler avec cette graphiste. Et si elle continue à faire des couvertures... Et que moi, je continue à faire du polar, je continuerai avec elle.
Eh bien, c'est parfait. Philippe, vous vouliez poser une question.
Oui, une question. Chris Raveri, vous disiez à l'instant, donc, concernant la graphiste, bon, vous lui envoyez donc, votre roman, elle lit le roman. C'est pour vous qui êtes éditeur, également Diego Arrabal.
Oui.
Une graphiste, elle lit systématiquement un roman avant de faire la couverture.
Pas forcément.
Parce que c'est quelque chose, c'est un fait que je connaissais pas. C'est pour ça que je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Chris Raveri.
Disons que nous, on ne donne pas systématiquement le roman à lire à la graphiste, parce que c'est quelqu'un qui est en freelance et qui a une grosse charge de travail, puisqu'elle travaille aussi pour des institutions. Donc nous, ce qu'on fait, ce que moi je fais pour lui demander des couvertures, je lui envoie un synopsis du roman. D'accord. Avec les grandes lignes, et quelques idées de ce qu'elle pourrait mettre dedans. Alors, j'envoie pas de photos, mais je dis il pourrait y avoir tel type de décor, ça pourrait être tel type, par exemple une ambiance de brouillard ou autre chose. Donc ça c'est l'élément que nous faisons. Et ensuite le ou la graphiste, puisque nous avons 2 graphistes aux éditions Arcane 17, le ou la graphiste nous fait des propositions et avec l'auteur, nous choisissons celle qui nous semble la plus pertinente.
Parce que là, on voit, ça veut dire il y a 226 pages, quoi. Il faut lire les 226 pages, effectivement, avant de composer effectivement la couverture. Donc, c'est un travail conséquent, quand même, que de lire pour une auteure. C'est pour ça que je vous posais la question, Chris Raveri. Parce que ça veut dire que là, elle s'imprègne complètement, effectivement, de l'esprit du roman. Et on voit bien que sur la couverture, il y a le drapeau basque. De l'autre côté, donc, on voit, je suppose que c'est le dessin de l'île d'Oléron.
voilà, que l'on voit. Alors, les couleurs bleues, qu'est-ce que ça...
En fait, c'est la couleur bleue avec l'île et le io qui est dedans, qui sont dedans. C'est une représentation un peu officielle de l'île, parce qu'il existe bien un drapeau de l'île d'Oléron, mais en fait, personne, malheureusement, ne le connaît. Et en plus, il a des couleurs qui se rapprochent énormément du drapeau bas, je crois aussi, avec du bleu dedans. Mais si on avait mis ce drapeau sur la couverture, personne n'allait savoir à quoi ça correspondait.
D'accord.
Parce que il faut, c'est très important. Moi, ce que je tiens à chaque fois dans mes couvertures, c'est que l'identité soit forte. Alors, la façon dont elle travaille, je pense que c'est un plus. C'est son choix. Hein. Bon, vous aurez l'occasion d'en parler avec elle quand elle viendra. Mais je trouve que c'est un plus. En plus, ben moi, je me retrouve aussi éditeur en même temps, puisque j'ai créé ma propre maison d'édition. Même si je m'édite que moi-même.
Marisa Édition.
Ouais. Voilà, Marisa Édition. Mais, voilà, c'est bon,
j'ai le droit d'éditer aussi, si je vous le montre. Voilà. Voilà. Donc, c'est un plus, mais c'est une autre façon de travailler. Bon, de toute façon, le principal, c'est que chaque fois, on arrive à une couverture qui tienne la route.
Très bien. Eh bien, je rappelle que nous recevions Chris Ravery pour son roman Halloween sanglant à Oléron, chez Marisa
Halloween,
Édition.
Halloween rouge.
Halloween rouge qui est le... pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, sanglant. Ah oui, non, c'est Halloween rouge à Oléron, c'est moi qui ai mal...
Non, mais sérieux, il fait souvent le coup pour savoir si, en fait, la personne qui l'interview...
Bah oui, ça, c'est les formations de prof.
Voilà,
hein.
Et vous voyez, il est vraiment là ou pas, quoi. Hein. Voilà, c'est un peu le genre de Diego Araba, l'esprit, es-tu là? Bon, voilà. On voit bien que
il était
on a
là.
Entendu les trois coups voilà, sur la table, effectivement.
Voilà. Merci Chris, et puis au plaisir de vous retrouver pour votre prochain roman, mais surtout belle vie et longue vie à celui-là.
Eh bien, merci bien.
Au revoir. Et
merci de m'avoir reçu.
Ben, je vous
merci
en prie.
À vous, à bientôt.
Eh bien, chers auditeurs, chers Philippe et Philippe, eh bien, la semaine prochaine.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni. Philippe Subercase.
On a tous des hauts, on a tous des bas.
On a tous le cœur chaud quand on se prend dans les bras.
On s'est tous sentis seuls au moins une fois.
Quand on n'aime pas sa gueule, quand il n'y a rien qui va.
Dis-toi que c'est la même rengaine, que t'es pas tout seul avec ta peine.
Et qu'on t'emmène là-bas, oublier tout. Ça, les coups durs, les chagrins, ça nous fait un point commun. On t'emmène chez nous pour oublier tout. S'ils sont durs, les réveils, c'est qu'on est un peu pareil. Allez, chante un peu, ça va déjà mieux. On t'emmène à l'abri, retrouver de l'énergie. Allez, viens chez nous pour oublier tout. Allez, viens chez nous, on t'emmène, on t'emmène, on t'emmène.
On a tous des galères qu'on vit injustement.
Des passages à vide, des marques du temps.
On a tous l'air de rien mais on aime passionnément.
Dis-toi que c'est la même histoire, que t'es pas seul à broyer du noir.
Et qu'on t'emmène là-bas, oublier tout ça. Les coups durs, les chagrins, ça nous fait un point commun. On t'emmène chez nous pour oublier tout. S'ils sont durs les
avec ta colère, tends-moi la main, prends la mienne.
La vie ça tient à rien. Et qu'on t'emmène là-bas, oublier tout ça, les coups durs, les chagrins, ça nous fait.
Radio Présence à Figeac 97.7.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Septième congrégation générale des cardinaux ce mercredi matin en vue de la préparation du conclave. Il s'ouvrira dans tout juste une semaine.